Nous venons d'entendre une parole que le Seigneur nous a adressée. Et en écoutant cette parole, on pourrait se demander pourquoi Dieu continue à nous parler. Est-ce que ce que nous avons entendu est nouveau ? Non. Non. Ce sont des paroles que nous avons déjà entendues. Pourquoi Dieu continue-t-il à nous parler ? Parce que s'il se répète, c'est que nous avons besoin constamment de revenir à lui. Constamment de prendre des positions, adopter des attitudes nouvelles. Parce que nous avons besoin, jour après jour, de paroles qui soient en correspondance avec ce que nous vivons maintenant. Alors Dieu continue à nous parler. Et parce qu'il se répète, nous pouvons laisser sa parole tomber à terre. Ben oui. Vous savez, à force de parler à mes enfants, parfois, ils faisaient comme s'ils m'écoutaient, en se disant « on l'a déjà entendu ». Nous agissons pareil avec notre Père Céleste. Nous entendons et puis nous disons « oui, mais ça, il me l'a déjà dit ». La question, ce n'est pas pourquoi il se répète, c'est pourquoi il a besoin de me redire des choses que je dois vivre, que je suis appelé à entendre et sur lesquelles je dois inscrire mes engagements, mes choix, mes attitudes, mes comportements. On a entendu ce matin la prière d'une sœur qui était une prière de consécration. Il faut de l'humilité pour se consacrer tout à nouveau à Dieu, pour plier les genoux et entendre une parole et dire « Oui Seigneur, ce matin tu m'as parlé. Alors, voilà, je vais entendre cette parole et je sais en quoi elle me concerne. Alors je vais agir. Sinon, je peux vous assurer que notre Dieu se répétera. Que notre Père nous redira à nouveau ce que nous avons à vivre. Pas parce qu'il tourne en boucle, pas parce que les paroles de prophétie ne se renouvellent pas, mais parce que nous avons besoin de vivre les choses. Ne négligeons pas. Et si ce matin le Saint-Esprit a touché mon cœur en me disant « Là, c'est à toi maintenant, c'est à toi d'agir, d'entendre et de prendre position. » Est-ce que la foi est le contraire du doute ? Non. Le doute fait partie de la foi. Si nous n'avions aucun doute, il n'y aurait plus besoin de foi. Ce serait une évidence. Comme quand il y a de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Non, non. La foi, ce n'est pas le contraire du doute. La foi, c'est la capacité de l'homme, dans le doute, à se mettre en route. Maintenant, quel que soit là où je me trouve, avec mes craintes et mes peurs, la foi, ce n'est pas chasser le doute à tout prix et qu'il n'existe plus. C'est avec le doute, être dans l'assurance que je peux faire ce pas-là. Est-ce que ce matin, nous pouvons être dans une attitude de foi devant le Seigneur ? C'est ce que nous demande notre Père. Je voudrais ce matin partager avec vous un texte du premier livre de Samuel que nous connaissons. C'est un récit sur lequel certainement vous avez déjà entendu des prédications, des partages, des pensées. Au chapitre 3 du premier livre de Samuel, il est écrit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » C'est un récit que nous avons certainement lu ou entendu à de nombreuses reprises. C'est une histoire d'un enfant. Plus qu'un enfant, puisque le terme hébraïque qui est utilisé pour parler de Samuel, c'est Nahar. Et Nahar, c'est en fait le terme utilisé pour quelqu'un qui est entre l'adolescence et l'âge adulte. Vous voyez, on va dire 14, 15 ans. Voilà, il est en train de se former physiquement, spirituellement. Et donc, ce jeune entend la voix ou une voix qui s'adresse à lui. Il est dit que Samuel était proche de Dieu, il vivait à proximité. On n'est pas encore dans le temple qui est construit à Jérusalem, on est dans le tabernacle, on est en tout cas dans un endroit où il y a le peuple d'Israël avec ce temple portatif qui est là, et il y a Élie, qui est au service de Dieu, le sacrificateur, et puis il y a ce jeune qui a été consacré à Dieu. Le jeune Samuel était un jeune homme qui a une vie assez étrange. Il commence dans la vie, dans un environnement familial, à la fois, j'ai envie de dire, favorable et défavorable. Vous connaissez les deux premiers chapitres du livre de Samuel qui nous présente justement dans ce contexte où il n'y a pas encore de roi, il y a des juges et puis il y a des autorités spirituelles. Et il se trouve dans une famille où le père est éphratien et il est de la famille d'Éphraïm. Éphratien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est originaire d'Éphrate. Et Éphrate, c'est un synonyme de Bethléem dans la Bible. Éphratien, Éphrate, ça veut dire doublement fécond. Doublement fécond. Et il est de la famille d'Éphraïm. Et Éphraïm, ça veut dire aussi celui qui est fécond. Alors, quand vous êtes dans une famille où le père est éphratien, doublement fécond, et de la tribu d'Éphraïm, celui qui est fécond, vous dites, tout doit rouler en termes, je dirais, d'avenir et de fertilité. Eh bien non, puisque son père, en fait, est marié à une femme, une épouse, et cette épouse, Anne, la gracieuse, est stérile. Vous lisez cela dans les premiers chapitres du livre de Samuel. Sa femme, Anne, est stérile. Alors, il a une autre compagne qui s'appelle Pénina, perle, corail, quelqu'un de précieux selon son nom, qui, elle, eh bien, a des enfants. Mais comme le conjoint, on se retrouve dans la même configuration qu'Abraham avec son épouse et puis la servante, ou que Jacob avec Rachel et Léa, une qui est aimée et stérile et l'autre qui est avec des enfants, féconde, mais qui est délaissé. On a souvent cette configuration dans l'Ancien Testament de vie de famille. Et là, cet homme qui est là avec deux femmes monte tous les ans à Jérusalem et monte avec ses deux femmes. Et à chaque fois, il est dit que Pénina prenait plaisir à rabaisser Anne du fait de son absence d'enfant. Et tous les ans, c'était pour Anne une souffrance. Alors, Elkana, lui, le père, donc c'est pas Elkana, j'ai oublié son nom, mais si vous l'avez, vous me le redonnez. Le père, lui, prenait soin de sa femme et celle qu'il aimait, il lui donnait une double portion. Redonnez-moi le nom. C'est Elkana. Voilà, j'ai eu un doute tout à coup. Je ne devrais jamais douter de moi. Et cet homme donnait une double portion de viande à sa femme bien-aimée, à Anne, en croyant qu'en lui donnant de la viande et à manger, il supplierait à sa souffrance, à son mal-être. Il y a des mecs comme ça qui ne comprennent rien. Il y a des maris qui n'écoutent pas. Il y a des hommes qui ne comprennent pas les femmes ou leurs femmes. Et Anne, année après année, criait à l'Éternel. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'était un vœu de consécration de Naziréa. Je le consacrerai. Si tu me donnes, je te donne. Oh, c'était pas un marché. Si tu me donnes, je te donne. Comme on peut le faire un peu, ou comme les enfants le font dans les cours de récréation. C'était un acte de foi et de consécration. Quel contexte ? Dans un contexte qui parle de fertilité, de fécondité, la stérilité est présente. Nous sommes dans notre vie avec Dieu, avec des promesses de Dieu sur nos vies, de fécondité, de bénédiction. Et parfois, nous pouvons avoir le sentiment d'être comme Anne dans un temps de stérilité, de vide et de désert. Est-ce que ça peut être ce matin le cas de certains d'entre nous qui se disent « Voilà, Dieu a promis tellement. Et quand je regarde ma vie, c'est une vie stérile, un désert. » Et peut-être comme Anne, êtes-vous en train de dire « Si tu daignes regarder l'affliction qui est la mienne, Seigneur, si tu daignes. » À cette époque-là, Élie, qui avait toute autorité spirituelle sur le pays d'Israël, avait lui des fils, et il est dit au chapitre 2 que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils étaient là pour se servir. J'ai entendu ce qui était dit dans une prière entre le service, servir Dieu ou se servir. Eux, ils avaient fait leur choix. Ils se servaient. Ils n'étaient plus en relation avec Dieu, et la condamnation de Dieu tombera sur toute la famille d'Élie. Nous avons, dans le contexte que nous connaissons dans notre vie, une responsabilité, un choix à faire. Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, Dieu dit ceci : J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Ça a toujours été un texte qui m'a interpellé, et parfois même quand j'étais jeune, qui m'a révolté. Parce que je me disais, quel est le choix que nous avons en réalité ? Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction, choisis. Seigneur, donne-moi 5 minutes. Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore. Jusqu'à ce que je comprenne que nous sommes là face à l'extrême amour d'un Dieu qui nous donne la liberté de l'aimer, de l'adorer en toute liberté. Tu as le droit de refuser de marcher avec moi, de vivre avec moi, d'être dans ma présence. On a entendu parler du fils prodigue dimanche dernier. Tu as la liberté de prendre ta part d'héritage et de partir et de vivre pour toi. Et même si tu deviens mon enfant, tu auras toujours la liberté de me dire oui ou non. Choisis la bénédiction ou la malédiction. Nous connaissons dans notre vie ces temps où nous avons dit non à Dieu. Parce que nous souhaitions prendre des positions qui étaient les nôtres. Parce que nous avions intérêt à les prendre. Parce que notre raison nous disait « Voici ce qui est le meilleur pour moi ». Et nous avons fait ces choix. J'ai fait ces choix dans ma vie de manière régulière. Et Dieu, comme un Père, sans cesse est revenu. Et comme nous l'avons entendu ce matin, a parlé à ma vie, à mon cœur, et m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu veux ? Où tu veux aller ? Quel est ton choix ?» Dieu se tient, là aussi, toujours, devant nous en disant « Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. » Or, ça peut être la vie, je dirais, spirituelle qui nous est proposée. Le service auquel nous sommes appelés. Et Dieu nous dit, voilà, est-ce que tu veux rentrer là-dedans ? Est-ce que mes plans, ce que je suis en train de te dire, ce que je désire pour toi, mes désirs pour ta vie, est-ce que tu es prêt à les accepter ? Et nous disons, oui, non, peut-être, oui, mais, nous avons plusieurs réponses à donner à Dieu. Mais la réponse est celle que nous trouvons dans ce récit de Samuel et qui va être peut-être la parole qui, pour moi, est la parole centrale de ce texte. Me voici. Quand Dieu nous parle et qu'il nous interpelle, il y a une attitude, un cœur qui peut dire à un moment donné devant Dieu, « Me voici ». Et dans ces deux mots qui traduisent un seul mot en hébreu, « Hineni », »,« Me voici », il y a toute l'obéissance, la soumission, mais aussi l'amour que nous avons dans un Dieu vis-à-vis duquel nous avons toute confiance. « Me voici ». Je ne connais pas tout, je ne connais pas jusqu'où tu vas m'emmener, je ne sais pas. C'est la parole que Christ adresse à Pierre à la fin de l'évangile de Jean. Me voici, d'accord, je t'aime. Je ne suis pas capable de dire « je t'aime comme tu le voudrais », mais voilà, me voici. Eh bien, c'est bien. Autrefois, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Eh bien, je te dis qu'un jour viendra où ce sera un autre qui attachera ton vêtement et qui t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Est-ce que nous sommes prêts à dire à ce moment-là, comme Pierre, « Me voici ». Le contexte de vie qui est le nôtre, comme celui de Samuel, il n'a pas eu une vie facile. Il a eu une maman qui a été dans la souffrance jusqu'à sa naissance. Il a eu une autre mère à côté qui certainement n'a pas été très aimante. Il y a eu un père qui n'était pas vraiment à l'écoute. C'est son contexte de vie. Et parfois, j'ai l'impression que nous pouvons utiliser notre histoire, notre passé, notre contexte de vie comme, entre guillemets, une excuse pour ne pas dire à Dieu oui. Il y a un mot que j'ai entendu dans la parole que Dieu nous a donnée tout à l'heure, c'est le mot plainte. Et on l'a chanté aussi. Arrêtez de se plaindre. Dieu manque totalement d'empathie ne trouvez-vous pas ? Quand il dit d'arrêter de se plaindre. Mais j'ai des raisons, Seigneur, de me plaindre. Regarde ce que je vis à l'heure actuelle. Et certainement, je ne me permettrai pas de juger, je dirais, la souffrance que l'autre peut avoir. Mais est-ce que parfois, ce que nous vivons, alors que nous devrions à cette occasion nous centrer sur Christ, nous réfugier en lui, est-ce que nous ne sommes pas à prendre notre souffrance comme excuse pour éviter de nous rapprocher de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas, à un moment donné, un nom déguisé ? Tu comprends, Seigneur, ce que je suis, ce que je vis aujourd'hui, ne me permet pas de te dire oui. Alors que ce que je vis aujourd'hui, Dieu le connaît et Dieu le sait. Et ce n'est pas pour me mettre la tête sous l'eau qu'il permet cela, mais afin que dans ce chemin-là, qui peut être un vrai chemin de souffrance, nous puissions trouver en lui une réponse, un sens, un amour qui nous entoure. Nous pouvons regarder ceux qui nous ont précédés, Moïse, abandonné par sa mère, même si c'est pour de bonnes raisons. Gédéon, qui vivait dans la peur, les difficultés des adversaires vivant autour de lui. David, le petit dernier d'une fratrie qui était oublié et négligé par son père. Paul, qui a suivi le courant religieux de son époque, jusqu'à emprisonner des chrétiens, des hommes, des femmes et des enfants. Ce qui fait que ces hommes ont été des témoins de la foi, ce n'est pas qu'ils possédaient une dose de foi plus importante que celle que nous aurions, c'est qu'ils ne se sont pas cachés derrière ce qu'ils vivaient pour dire, ben voilà, je ne peux pas te dire, me voici. Ils ont rencontré la grâce de Dieu, ils ont cru et ils ont marché comme des hommes pour lesquels toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous étions au collège biblique, avec Michel, nous étions très jeunes, et il y a un livre qui était très diffusé parmi les élèves, entre autres francophones, c'est le livre d'Adolphe Monod, les adieux d'Adolphe Monod, où il raconte, alors qu'il était pasteur, comment il a été pris par la maladie et pendant des années resté sur son lit. C'est les plus belles pages, certainement de foi, qu'il m'a été donné de lire. Un homme qui, sur son lit, alors qu'il aurait souhaité être debout, annoncer l'Évangile, vivre son service et son ministère, a parlé comment, dans la maladie, Dieu s'est révélé à lui et comment il a cultivé une relation avec son Dieu au milieu de la souffrance. C'est les plus belles pages, certainement, d'écriture, de la foi dans la souffrance, de la foi au-delà de la souffrance. Il ne s'est pas servi de sa maladie pour se faire plaindre ou pour s'apitoyer sur lui-même. Il a trouvé un chemin avec Dieu qui a transcendé même sa souffrance. Cela ne nie pas la souffrance. Cela ne les dévalorise pas. Il a trouvé avec Dieu quelque chose qui a donné un sens à ce qu'il vivait. Le texte nous disait que à cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Dans un monde vide, sans Dieu, Dieu parle et il y a un jeune qui entend. Les visions n'étaient pas fréquentes. Élie commence. D'ailleurs, il est dit dans les trois premiers versets que le sens de la vue était particulièrement atteint. Les visions n'étaient pas fréquentes. Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Il y a toutes les conditions pour ne rien voir. Rien voir de ce que Dieu veut et attend pour son peuple. Il n'y a plus d'hommes et de femmes qui soient porteurs de la parole de Dieu. les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce que vous avez déjà eu des visions dans votre vie spirituelle, dans votre vie avec Dieu? Je ne sais pas. Moi, je parle souvent des charismes, des dons, puisque nous sommes une église charismatique où nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Lorsque je me suis converti, j'étais un peu dubitatif. Moi, je venais d'une cité très difficile où ce genre de choses, on les regardait avec un regard très dubitatif, tout ce qui était étrange, bizarre, surnaturel. Puis quand je suis rentré dans l'église, on m'a dit, mais vous savez, tu sais, il y a la possibilité par le Saint-Esprit de vivre des choses extraordinaires et surnaturelles. J'ai dit, oui. Enfin, bon, moi, ça devra passer au crible de ma raison. Il faudra que ma raison me dise si c'est possible ou pas, avant que je ne les vive. Bon, je suis certain que pour vous aussi, c'était le cas. Et puis, j'ai été baptisé du Saint-Esprit quand j'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Puis j'ai vécu un truc étrange avec un parler en langue. La glossolalie, comme le terme exact est utilisé. Là, ça dépassait ma raison. Je me suis dit, bon, alors là, comment expliquer cela quand on le vit? Puis là, il est parlé de vision. Je crois que dans ma vie, j'ai eu une fois quelque chose que j'ai vraiment reçu comme une vision. Une fois, en 44 ans de vie avec le Seigneur. Donc, c'est pas fréquent non plus chez moi. Est-ce que ça l'est dans l'Église? Est-ce que certains ont des visions? En tout cas, dans le peuple d'Israël, à ce moment-là, il n'y avait pas de vision pour que le peuple puisse savoir ce que Dieu attendait de lui. Élie, celui qui était le conducteur, avait les yeux troubles. C'est-à-dire que même le responsable suprême au niveau spirituel y voyait de moins en moins. On peut dire parfois que, au niveau du peuple de Dieu, il est bon de prier pour ceux qui sont à la tête de l'Église, ceux qui sont dans le service dans l'Église, ceux qui sont, je dirais, appelés à servir l'Église et à conduire l'Église. Vous avez une équipe pastorale ici. Est-ce que vous priez régulièrement pour que cette équipe ait les yeux ouverts? Moi, je suis heureux quand il y a des situations où quelqu'un tout à coup a une révélation, une vision. C'est arrivé il y a quelques années où un frère de l'église est venu me voir à la fin du culte en me disant « Voilà, j'ai reçu quelque chose cette nuit, c'était pour moi une vision. » Et puis c'est un type, j'en parle souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. C'est un homme qui a les deux pieds sur terre, c'est pas un énergumène à avoir des visions ou des choses comme cela qu'il partagerait, mais il dit « Écoute, je ne sais pas quoi en faire, j'ai eu une vision, voilà. » Et il m'a raconté, il m'a dit « Voilà, dans ma vision, j'ai vu, on était dans l'autre église, dans l'autre local, il dit « J'ai vu un homme rentrer dans l'église, s'asseoir sur cette chaise-là, il va s'asseoir et puis le culte va se dérouler. Et puis à la fin du culte, il demandera à prendre la parole et il dira tel mot, tel mot, tel mot, tel mot. Et ensuite, voilà, il se rassiera. Et cet homme-là sera un danger réel pour l'Église. C'est bien des gens qui ont des visions et on en fait quoi après ? Moi, j'ai trouvé que c'était suffisamment important pour qu'on en parle en équipe pastorale et que, sur la base de cette vision, on soit attentif. Et quelques semaines plus tard, un homme est entré à la fin, au début du culte, quand tout le monde était installé, c'était comme ça que c'était présenté dans cette vision, s'est assis sur la chaise en question, pas une autre, et à la fin du culte, il a levé la main, il a demandé la parole, et tout s'est déroulé de la même manière. Au bout de 15 jours, on a compris pourquoi cet homme pouvait être un danger, par son comportement. Et donc, on a dû lui demander de quitter l'église parce que c'était quelqu'un qui avait des comportements à risque pour les jeunes enfants de l'église. C'est bien quand Dieu parle. C'est bien quand Dieu donne des visions. Est-ce que nous voulons que Dieu soit ce Dieu de révélation aussi au milieu de nous? Est-ce que nous prions pour ceux qui sont des Élie, qui servent, pour qu'ils aient les yeux ouverts? Est-ce que nous prions pour avoir ces dons de révélation au milieu de nous? Quand ce qui se voit, se perçoit, n'est plus accessible, alors Dieu parle. Quand il n'y a plus de vision, Dieu parle. Et Dieu parle et s'adresse à un enfant. L'histoire de Samuel, c'est d'abord l'histoire d'un Dieu qui communique, qui écoute et qui parle. Anne parle à Dieu, Dieu entend et agit. Anne remercie et elle appelle son enfant Samuel. Il m'a entendu. Dieu parle, il m'a entendu quand je lui ai parlé. Il y a des Samuel dans nos familles ? Je sais qu'il y en a. Hein ? J'ai crié à Dieu, Dieu m'a entendu. Appeler son fils Samuel, ça a du sens. Hein ? L'absence de Dieu, c'est une absence de communication entre l'homme et lui. Dieu parle toujours. Dieu veut parler. Dieu veut se révéler. Et c'est l'homme qui entend de moins en moins et qui se bouche les oreilles. Vous savez, ce fameux trois petits singes, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. L'homme est parfois dans cette relation-là avec son Dieu. Élie ne pouvait plus voir, ce n'était plus un serviteur capable de voir physiquement, mais également spirituellement, puisqu'il est dit dans le chapitre 2 que ses enfants étaient pervers et ils n'agissaient pas. Ils ne voyaient plus, ils ne regardaient plus avec le regard de Dieu. La parole était rare. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, la parole est plus présente ? Est-ce que la parole de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons, est aussi présente. On pourrait dire qu'elle est aussi très rare. Elle est rare, cette parole. Une parole vivante de Dieu, une parole qui libère de la peur, de la mort, une parole qui est capable de transformer les vies. Soyons conscients que cette parole-là, elle est aussi très rare. Cette parole est étouffée par la vie, par le bruit, par le péché, par la violence. Hier, je lisais le journal et je découvrais que le président des États-Unis a décidé de relancer les armes nucléaires. Des armes qui vont se développer. Je crois qu'il y a 660 possibilités de lancement sur différents moyens aux États-Unis d'armes nucléaires. La Russie est à 530. Et alors, ce qui m'a surpris et choqué, j'ai découvert par la même occasion qu'au niveau scientifique, ils ont créé une horloge qui est l'horloge du jour final. C'est-à-dire qu'en fonction de la prolifération des armes nucléaires, des risques, des tensions, etc., il y a depuis plusieurs décennies, au niveau scientifique, ils ont pris plein d'items, ils ont créé une horloge. Et au moment où le président américain décide d'augmenter, de créer de nouvelles armes nucléaires, l'horloge, cette fameuse horloge du temps final, est fixée à minuit moins 2. Et à minuit moins 2, un président décide d'accélérer un petit peu les choses, d'augmenter les risques. Nous sommes à minuit moins 2. Je ne sais pas si cette horloge virtuelle, est en correspondance réelle avec notre situation. Je dis simplement que nous disons que nous sommes dans les temps de la fin. Je ne sais pas si on est à minuit moins 2, mais on est vraiment dans les temps de la fin. Et que les hommes ont décidé de ne pas entendre une parole de salut, une parole de vie, une parole d'espérance, et que la parole de Dieu aujourd'hui, elle est rare. Et qu'elle nous est confiée à nous, le peuple de Dieu, comme elle est confiée à Samuel à partir de ce jour-là. Nous sommes porteurs de cette parole. Samuel, dans la nuit, entend Dieu. Il fait sombre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est proche de Dieu. Alors il dit qu'il était à proximité du tabernacle. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse dormir dans le lieu très saint. Mais il était à proximité, c'est ce que nous dit le texte. Hein. Il était à côté de la lampe de Dieu qui n'était pas éteinte. Alors on a peu d'explications sur l'endroit réel, mais il était vraiment à proximité. Peut-être un des plus proches avec Élie de la proximité de Dieu. Il est dans la nuit, il entend Dieu, mais il ne sait pas encore que c'est le Seigneur. Il faut apprendre à écouter et à savoir quand Dieu parle. Ça demande une éducation de notre oreille, une éducation de notre être spirituel. Est-ce que c'est moi qui pense ceci ou est-ce que c'est le Seigneur qui me parle ? Samuel se lève à plusieurs reprises et il va voir Élie. Dieu est parfois amené, du fait de notre méconnaissance, du fait de l'incapacité à comprendre, à entendre la voix de Dieu, Dieu est obligé de se répéter ce que je disais en préambule. Mais Dieu ne se lassera pas de répéter et de nous dire, écoute, je veux que tu entendes ma voix. Je veux te révéler mon chemin pour toi, ce que je te veux ou ce que je veux pour toi. Trois fois, c'est le chiffre de la plénitude, vous savez, plénitude de la vie, plénitude du péché. Quand Jésus interroge Pierre, c'est, voilà, tu m'as renié trois fois, je te pose la question trois fois, parce que la plénitude de mon amour est aussi importante, aussi pleine pour toi que peut l'être la plénitude du péché, du reniement, de tes trahisons. Mon amour a cette plénitude pour toi. Dieu ira jusqu'au bout dans sa recherche de l'homme. Il ne se lassera pas. Et il ne se lassera pas de me parler. Alors je peux prendre le temps. Je peux attendre. Quand j'étais jeune, il y avait vous savez, des petits prospectus qu'on donnait pour l'évangélisation. Et il y en avait un qui était en petite bande dessinée. On voyait l'homme, différentes étapes de sa vie, quand il était jeune, quand il était enfant, quand il était jeune, quand il était jeune marié, quand il était ensuite un adulte mature, et puis quand il était vieillard. Et à chaque fois, il a posé la question de Dieu, sa voix qui descendait du ciel, qui l'interpellait. Et quand il était jeune, il disait, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup trop d'occupations. Quand je suis jeune, j'ai plein de choses à vivre. Et je pense que pour Laurence qui vit avec les jeunes à l'école, elle doit être constater cela. Mais on peut le voir aussi pour les jeunes gens mariés qui disent ah ben nous, il faut qu'on on s'installe, il faut qu'on construise une maison, il faut qu'on démarre bien dans la vie, il faut des projets comme cela. Et puis il y a le professionnel qui va prendre sa place. Puis quand on est mature, on dit ah oui, mais là j'ai ma carrière, il faut que je etc. J'ai pas le temps. Et à chaque fois que la parole de Dieu descend, je n'ai pas le temps pour l'écouter, je n'ai pas le temps pour lire sa parole. Je n'ai pas le temps pour prier. Et puis quand on est vieux, on se dit ah oui, mais là il faut que je prépare ma retraite, et puis il faut que je vive, etc. Je n'ai pas le temps. Et puis on voit la dernière vignette, c'était la parole de Dieu qui s'adressait à un homme sur son lit de mort. Quand auras-tu le temps? Dieu ira jusqu'au bout, même sur ton lit de mort, il essaiera de te parler encore. Même le brigand sur la croix, au dernier moment. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras dans le royaume de Dieu avec moi. Jusqu'au bout, Dieu ira me chercher. Mais est-ce qu'il est intéressant d'attendre cet extrême plutôt que de lui dire « me voici » ? À chaque fois que Samuel a été interpellé, à chaque fois il est allé vers Élie en disant « me voici, me voici, me voici ». Inémi. Me voici. Est-ce que je peux dire, moi aussi, ce simple mot, me voici, Seigneur, parce que mon Dieu est riche en pardon, il ne se lasse pas. Que le méchant, disait Ésaïe 55:7, abandonne sa voix et l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui aura pitié de lui, car notre Dieu est riche. Riche en pardon, il ne se lassera pas de me pardonner et venir à ma rencontre. Alors Samuel entend Élie lui dire, va couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint. Pas étonnant, il continue. L'Éternel vint, se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel. Parle, car ton serviteur écoute. En fait, les deux premières fois, il dit à Élie, me voici. Et là, en fait, il va au-delà du me voici. Il est là devant Dieu. Il n'a pas besoin de le dire. Il dit plus me voici, il dit, parle, ton serviteur écoute. Après cette phase d'acceptation où l'on dit, me voici Seigneur, tu m'appelles, alors me voici. Vient la deuxième étape de dire, voilà, parle, j'écoute. Il y a des hommes qui ont dit « me voici ». Parmi ces hommes, et avant Samuel, il y en a eu d'autres, et après Samuel, d'autres encore. Samuel dit ici « parle, car ton serviteur écoute, et il se place devant l'Éternel, celui qui est, celui qui était, qui est et qui sera ». Le nom de Dieu, c'est un Dieu où il y a à la fois le passé, le présent et le futur. Inéni, me voici devant toi, Éternel du passé, du présent et du futur. Me voici, car je sais que tu es celui qui tient le temps entre ses mains, ma vie entre tes mains. Samuel semble avoir appris à répondre à l'instant à la voix d'Élie. À chaque fois qu'il l'entendait, il se levait, il allait tout de suite. Ah, combien Dieu doit apprécier ceux qui entendent et qui disent à Dieu, me voici. Je suis directeur, j'ai des collègues. En tant que directeur, c'est le privilège dont on ne doit pas abuser. De demander et de voir tout de suite les gens arriver et faire ce qu'on leur demande. Ah, on n'est que des humains, donc on peut en exagérer. Mais je crois qu'il y a dans la relation à Dieu un apprentissage à avoir. Lorsqu'il me parle, de discerner sa voix, d'apprendre à reconnaître sa voix et de dire tout de suite « me voici ». Dans une attitude de confiance, dans une attente de ce qu'il veut et attend de moi. Me voici. Abraham, dans la Genèse, chapitre 22, verset 11, répond à l'appel de Dieu qui dit « va pour toi ». Va. Moi, j'aime beaucoup cette traduction. « Va pour toi vers le pays que je te donnerai ». Moi, j'aime bien parce que... Et Abraham dit « me voici ». Pourquoi ? Parce que dans l'appel de Dieu, il n'est pas dit « va pour moi, Dieu, vers le pays que je te donnerai ». Mais la phrase exacte, c'est « va pour toi vers le pays ». Ça veut dire que si tu entends ma voix, tu vas y aller, mais pour toi. Parce que ce qu'il y a dans la réponse que tu vas me donner, ça va être la bénédiction pour toi. C'est pas Dieu ne dit pas à Abraham « va pour moi, sois mon ambassadeur ». Non, non, « va pour toi ». En fait, le « me voici » d'Abraham est un « me voici » qui sait que ce que Dieu lui demande est le meilleur pour lui. Je vais aller vers ma bénédiction. Alléluia ! Je vais aller vers ma bénédiction. Je te dis « oui, me voici » parce que ton appel est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Oh, on sait le dire, cela. On sait le dire. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction qui enrichit. Mais combien, parfois, en fait, nous la laissons à côté. On dit, bon, voilà, je l'entends, mais je vais prendre mon temps pour y répondre. Pour plein de raisons. Va pour toi. Va pour toi. La bénédiction de Dieu, c'est un aller pour soi. Pour ce qu'il y a de meilleur. Abraham va le faire. Ça va bouleverser le cours de sa vie, le conduire vers un but qu'un autre a fixé, sans autre assurance que la parole entendue, jusqu'à ce qu'elle, qui consiste à sacrifier son fils, soit une parole de bénédiction et de grâce. Abraham dit « me voici ». Et en lui est formulée la promesse d'une bénédiction dont nous sommes, nous, aujourd'hui, les bénéficiaires. Qui sera bénéficiaire de ton « me voici ». Ta femme, ton mari, ton fils, tes proches, qui sera bénéficiaire de cette parole que tu donneras à Dieu « me voici ». Il y a Jacob, dans une vision en pleine nuit, qui dit « me voici », il en sort transformé avec un nom inédit, Israël, un avenir qu'il n'avait pas imaginé. Me voici. Il y a Moïse, berger en terre étrangère, qui entend son nom prononcé dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Me voici, dit-il. Et la suite de l'Exode nous montre un homme qui accomplit des miracles pour Dieu. Veux-tu accomplir des miracles pour Dieu dans ta vie? Te mettre à fort bloqué avec un bâton et que la mer s'ouvre et que tu ailles jusqu'à Groix à pied. Bon, ça m'embêterait parce que je fais du kayak dans ce coin-là, donc évitez de le faire. Mais je suis certain que Dieu peut accomplir des choses encore plus extraordinaires si nous sommes, comme Moïse, capables de dire « Me voici ». Ah, les hommes ont répondu « Ineni, me voici ». Mais Dieu a aussi dit aux hommes « Me voici ». Il a eu aussi cette position. Un Dieu qui dit « Me voici ». Je suis celui qui fait advenir, celui qui fait devenir, « Me voici ». Est-ce que tu veux que Dieu soit ce Dieu-là dans ta vie et dans ma vie ? Celui qui rend les choses possibles. « Me voici », dit Dieu aux humains. Et au travers des temps, les hommes entendront cette assurance de la présence de Dieu comme une bénédiction ou comme une malédiction. « Me voici », dit l'Éternel, « aujourd'hui je fais advenir pour toi. Me voici dans ton quotidien, me voici dans l'inattendu, me voici dans l'imprévisible de ce qui peut devenir l'inespéré. Me voici dans l'humanité de mon fils, me voici dans cet enfant, dans la crèche dont nous avons célébré la naissance il y a quelques semaines. Me voici dans l'homme qui annonce heureux les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim. Me voici sur la croix. Me voici. Me voici dans l'amour jusqu'à la mort. Comprends-tu qui je suis ? Je suis me voici dans ta vie. Les apôtres ont été des hommes qui ont dit « Oui, me voici ». Les premiers disciples ont dit aussi cela. Pendant 3 ans, les apôtres et les premiers disciples ont vécu dans le « Me voici » de Dieu en la personne de Jésus. Parce que Jésus a aussi été celui qui dit « Me voici pour toi ». Que de fois a dû retentir dans la vie des apôtres ce « Me voici » de Dieu. Et pourtant, à la croix, celui qui a dit pendant 3 ans « Me voici pour vous » comme le signe du Père, comme le cadeau du Père, celui qui était ce « Me voici » du Père, eh bien, au moment de la croix, ses disciples étaient absents. C'est inconcevable. Les bras étendus, Christ disait « Me voici, livré pour vous ». Un cri d'amour unique, scandaleux, insupportable. Et ils sont absents. Ils sont dans le désespoir, ils restent sourds, muets, paralysés. Mais nous ne sommes pas très différents de ses disciples. Alors retentit en nous cet appel que Dieu adressa à Samuel. Sommes-nous ce matin capables, dans nos cœurs, dans nos vies, de vivre cette expérience unique avec ces deux mots, devant Dieu, lui dire « Me voici, accomplis ta volonté, accomplis ta bénédiction dans ma vie. Je vais aller pour moi dans ce que tu as prévu. » Deux mots en français, un mot en hébreu, mais qui peuvent transformer, changer tellement de choses dans nos existences. Prendre une position, gagner du terrain, investir une terre promise. Me voici, Seigneur, devant toi. Père, au temps de Samuel, ta parole était rare. Les visions étaient peu fréquentes. Ceux qui t'appartenaient devenaient aveugles. Ce n'est pas très différent d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tu as appelé Samuel, tu nous appelles les uns et les autres à répondre à ta parole, à te répondre « Me voici ». Parce que je veux que ta volonté s'accomplisse. Je veux choisir la vie Je veux choisir l'espérance en toi. Et même si le contexte de ma vie est difficile, lourd, me voici, tel que je suis. Même s'il y a de la peur et de la crainte, même s'il y a du doute dans ma vie, me voici. Même si je dois faire face à des situations extrêmes, à de la douleur, à des pertes, me voici. Parce que c'est en toi que l'espérance et la vie. Même si je n'ose pas, si je me sens incapable, même si, comme Pierre, je t'ai trahi tant de fois, et que la honte et la culpabilité peuvent habiter mon cœur, me voici, Seigneur. Reçois ces deux mots comme un engagement maintenant de nos vies, de nos cœurs. Amen. Nous voulons rester dans la présence du Seigneur pour partager le pain, pour partager ce repas qui a été instauré par Christ lui-même, partager du pain, une coupe. Là aussi, des choses tellement simples. Mais le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi quand vous vous rassemblez. C'est un souvenir de ce que Christ est aujourd'hui, ce qu'il a été et fait, ce qu'il est et accompli aujourd'hui, ce qu'il sera et accomplira demain jusque dans l'éternité. Prendre le repas du Seigneur, c'est cela.